La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, jeudi, dernier moment de notre série consacrée à l'écrivain chilien Roberto Bolaño. C'est l'âge qu'avait Bolaño quand il nous a quittés en 2003, laissant derrière lui une douzaine de romans qui en font, selon certains, rien moins qu'un pur génie. Pour d'autres, on l'a entendu cette semaine, il est surtout un excellent écrivain, mais dont il ne faut pas être dupe du mythe. Parmi ses œuvres, citons « Appel téléphonique »,« Des putains meurtrières », le recueil d'essais « Entre parenthèses » ou encore les gros volumes des « Détectives sauvages » et de 2666. Une vie brève donc, mais on le voit riche de littérature. Nous en parlions dans l'émission de lundi dernier. Mardi, c'est dans les profondeurs cauchemardesques du Chili de Pinochet que nous sommes descendus, autour notamment du livre Nocturne du Chili, qui raconte comment on torturait dans les caves de maisons pourtant particulièrement festives, des maisons où l'on organisait des soirées littéraires. C'est l'écrivain Bernardo Toro qui nous a raconté tout cela. Hier, une étude d'avantage stylistique, Bolaño se considérait poète avant que d'être romancier. Florence Olivier nous en a parlé, tout comme elle est revenue sur certains de ses grands romans, dont 2666. Et aujourd'hui ? Eh bien aujourd'hui, 2666 encore, car nous n'avons pas épuisé toutes les possibilités de ces 1400 pages. Je reçois en première partie Alban Lefranc qui a adapté ce gros livre, tout comme Julien Gosselin, que l'on a déjà entendu ces derniers jours dans les émissions de France Culture, adapté au théâtre donc. Et en seconde partie, notre invité sera l'auteur du roman Blanes, Edwige Jeanmar, Blanes, du nom de la ville balnéaire où vivait Roberto Bolaño et sous le signe duquel est placé son intrigue. Bienvenue à tous, voici la compagnie des auteurs.
En realidad es una novela sobre los escritores. Y la mejor forma de dejarlos quietos para la foto a esos escritores era ponerlos en una situación extrema. Y la situación extrema, pues era o escritores fascistas por el lado de la derecha o escritores del realismo socialista por el lado de la izquierda. Por ejemplo, se podría hacer lo mismo con escritores en la época de Stalin, ¿no?
Bonjour Alban Lefranc.
Bonjour.
On entend ici un extrait d'une interview de Roberto Bolaño qui parle de son livre La littérature nazie en Amérique. Un livre qu'on pourrait qualifier de fiction biographique, puisqu'il s'agit de biographies d'écrivains admirateurs, en l'occurrence de l'extrême droite. Mmh. Et vous, vous êtes aussi un écrivain de fiction biographique, quand vous parlez par exemple de la vie de Mohamed Ali dans Le Ring Invisible, de Fassbinder dans Fassbinder, La mort en fanfare. Est-ce que c'est cela aussi qui vous a lié à la littérature de Bolaño?
Non, pas directement en fait. Et d'ailleurs, c'est pas une adaptation que j'ai écrite avec le collectif de Quark. C'était vraiment plutôt, il s'agissait plutôt de déployer les effets du livre sur nous. C'est-à-dire qu'on, en toute subjectivité, c'était presque le souvenir, les traces du livre sur nous qui nous intéressaient, plutôt que d'en faire une transcription, de prétendre en faire une transcription fidèle, ce qui nous paraissait d'emblée impossible. Donc c'est moins cette... Il y a eu vraiment une rencontre avec ce collectif autour de ce roman-là, 2666, mais ma rencontre avec Bolaño c'est pas faite par ces fictions biographiques, que j'admire infiniment par ailleurs, mais c'était pas l'enjeu de ce travail avec de Quark.
C'est amusant que vous parliez des traces que le livre a laissées sur vous, parce que on a l'impression que Roberto Bolaño, et c'est aussi le sujet de l'émission d'aujourd'hui, puisqu'on est avec des héritiers, et on le sera aussi avec Edwige Jeanmar en seconde partie, Roberto Bolaño laisse profondément marquer ses lecteurs.
Oui, absolument. Alors, ce qui nous a vraiment, enfin, moi, en le relisant ces derniers temps, justement pour cette émission, parce qu'il y a énormément de strates différentes, ce livre-là.
Vous l'avez relu en entier ?
Non, j'en ai relu essentiellement des parties, et puis c'est un livre qui m'accompagne, que je connais depuis un moment, donc il y a différents moments de réaction au livre. Mais une des choses qui m'a le plus frappé, c'est cette espèce de foi inébranlable qu'il a dans les pouvoirs de la littérature. Quelque chose de finalement pas si courant. Et il nous décrit des personnages, quand il décrit par exemple ces universitaires, on n'en sait pas grand-chose finalement. Leur qualité première finalement, c'est d'être ébranlé par la littérature. Comme Liz Norton par exemple, qui à la découverte d'un des livres sort en courant dans la cour. Donc une espèce de foi dans la puissance qu'a la littérature à ébranler le réel ou à rendre presque impossible le réel. Et constamment dans 2166 apparaissent des figures comme ça d'écrivains inventés, donc le principal Hans Reiter Archimboldi, mais il y en a beaucoup d'autres qui exercent une très puissante fascination sur les personnages. Donc ça, c'est une des choses finalement, une des premières choses qui m'a frappé en le relisant. Il y aurait quelque chose comme ça, comme un devenir volcanique de la littérature qui procède par éruption soudaine. Et c'est effectivement cette foi-là qui me le rend extrêmement proche.
Alors je vous propose d'écouter un extrait de votre spectacle, Alban Lefranc, dans cette adaptation très libre, vous allez nous en parler, de 2666.
C'est l'été 1960, la chaleur de l'été tue tout. Elle t'étouffe d'abord, puis après elle te tue. Étouffement, mort, bourdonnement des mouches, les mouches qui piquent. L'écrivain malheureux note des phrases de souffrance dans la limousine qui l'emmène dans la grande salle de réception. L'écrivain malheureux pourrait s'appeler Maximilian Sebald ou Arthur Miller. Arthur, pas Henri, encore moins Dostoïevski, Kafka ou Proust. L'écrivain souffre. Ah oui, il se sent vivre quand il souffre. Quand il souffre pas, il s'ennuie. Il meurt tout le temps, je meurs, et puis il reste en vie absurdement. L'écrivain a reçu le prix Pulitzer à 34 ans pour Mort d'un commis voyageur. Mais l'écrivain n'était pas fait pour le succès. Je suis pas fait pour ça. Il n'était pas fait pour la presse, la reconnaissance. Lui, il s'imaginait dans une chambre de bonne jusqu'à 55 ans au moins, à manger du riz à l'eau sans sel, à souffrir, à chier des étrons ridicules, à rarement coucher avec des femmes, voire jamais. Enfin, il avait préparé sa vie depuis toujours ainsi. Il aurait écrit des poèmes sublimes, des choses très rares, très inaccessibles. Il aurait même eu une mort absurde. Il aurait fini renversé par une voiture à Londres, alors qu'il expliquait à un ami au téléphone son rapport intime et complexe à Dionysos. Puis après, il aurait eu droit à 5 lignes de nécrologie dans une petite revue littéraire française, Le Matricule des Anges.
Voilà, cet extrait donc de Barbecue, hein, c'est le nom du spectacle adapté de 2666. Dans le roman, évidemment, il n'est pas question du Matricule des Anges. Qu'est-ce que vous gardez du texte original dans cette adaptation?
Ah,
et peut-être en particulier dans cet extrait-là, ou de son idée en l'occurrence?
On garde strictement rien du texte original. Non, là, c'était... Il y a comme ça, dans le cours du récit, dans le cours de Barbecue, il y a cette figure d'écrivain malheureux qui me... Voilà, dont je fais quelque chose d'assez cocasse, quoi, et surtout une espèce de contre absolument à Bolaño, qui lui est dans une très grande vitalité et qui a un rire sardonique et extrêmement efficace à l'égard justement de cette littérature de la souffrance. Enfin, pour moi, Sebald est un représentant éminent et particulièrement atroce de ça. Et voilà, Bolaño incarne la joie, la vitalité, et précisément dans son affrontement à la pire souffrance. C'est pas non plus une vitalité bête, c'est une vitalité qui est capable de prendre en charge la souffrance aussi.
Et pourtant, ce n'est pas tellement comme ça qu'on le voit et qu'on en parle la plupart du temps.
De Bolaño?
D'habitude, Bolaño, c'est quand même l'écrivain du mal avant d'être l'écrivain de la vitalité.
Ah, j'ignorais qu'on le présentait... Enfin, l'écrivain du mal, je sais pas trop ce que ça veut dire. En tout cas, c'est certain que il suffit d'ouvrir ces pages pour y lire, dans 2666 précisément, une vitalité notamment sexuelle qui déborde à peu près à chaque page. On a jamais de la. C'est un petit peu ce qui m'a gêné dans l'adaptation de Julien Gosselin, où j'ai l'impression que les histoires amoureuses sexuelles entre les critiques prenaient une part quasi psychologique qui est totalement absente chez Bolaño. Le sexe est plutôt toujours joyeux ou grotesque, mais jamais psychologique, souffrant ou sujet à psychologie. Oui, c'est curieux. Écrivain du mal, oui, absolument. Mais bon, il faudrait préciser. Il y a vraiment c'est la littérature comme tauromachie, quoi, comme disait Lyris. C'est-à-dire qu'il affronte la corne du taureau à tout moment, mais avec vitalité, oui.
Alors, vous citez Julien Gosselin, dont le spectacle est en effet à l'affiche en ce moment aux ateliers Berthier, un spectacle dont on sait qu'il dure 11 heures. Vous, votre...
12 heures.
Bah, vous y êtes allé, donc vous le savez. Votre adaptation, vous, c'est le collectif de Quark qu'il a monté au Palais de Tokyo en avril 2005, et puis plus récemment, en mai dernier, au Théâtre Paris-Villette. Hein, c'était un spectacle de 1h30, voilà. Et vous avez imaginé ce collage d'histoires à partir de ce roman monstre qu'est 2666. On peut parler du coup du roman lui-même. Bolaño avait décidé de diviser en deux très gros volumes son livre avant d'opter finalement pour cinq parties. Et la première partie, c'est la partie dite des critiques, mmh, dont vous avez déjà commencé à parler un petit peu. Est-ce que vous vous êtes concentré sur l'une des cinq parties en particulier? Est-ce que l'une est plus importante ou plus chère à votre cœur que les autres?
Alors, dans le travail qu'on a fait avec... Que j'ai fait avec De Quark, non, les parties se télescopent en permanence. Il y a pas de... Encore une fois, c'est pas une adaptation patrimoniale confite en dévotion du livre. Je pense que d'ailleurs le livre résiste très puissamment à ça. Le livre d'ailleurs ne se prête pas à ça. Donc il s'agissait plutôt, encore une fois, de partir des émotions qui avaient déclenché le livre.
Et vous n'avez pas une partie préférée, par exemple?
La dernière, celle sur
celle qui est achevée. Ouais. Pour quelle raison?
Parce que c'est tout pour des raisons très très simples, très 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 naïfs. C'est enfin l'écrivain dont on nous parle depuis le début apparaît, et c'est une figure absolument lumineuse. Ce qui est amusant chez Bolaño, c'est qu'il a alors effectivement, il faut se méfier du mythe et de la dévotion qui est toujours consternante. Mais il a quelque chose d'un avertissement pour les vivants, comme Pasolini a pu l'être et l'est encore d'ailleurs. C'est une espèce d'avertissement joyeux à prendre à pleine main sa vie, et c'est possible. Donc cette figure de Hans Reiter est une Archibald Hans Reiter est une figure très exaltante, une figure de l'intégrité aussi. Alors c'est amusant parce qu'on a tous un peu intégré un discours sur la pureté où on s'est dit oulala, il faut se méfier de la pureté, etc. Mais il faut pas laisser la pureté aux nazis. C'est important cet enjeu, je crois. Et Hans Reiter est une figure quasi impossible évidemment, et on peut en rire d'un écrivain en retrait. Il y a une fascination chez Bolaño pour cette possibilité-là, lui qui à la fin l'était moins, mais qui était toujours le poil à gratter, qui allait gêner, enfin qui allait tout simplement foutre le bordel dans les lectures de Isabelle Allende, qui avait une espèce d'exaspération au monde littéraire qui l'entourait, qui était quelqu'un de très combatif, très hargneux, et c'est un aspect qui me plaît beaucoup chez lui. Moi, j'ai écrit sur Piala, donc des personnages comme ça toujours me portent. Je pense que il faut se méfier d'une espèce de réconciliation molle et d'une espèce de dévotion autour de la littérature qui veut plus dire grand chose au bout d'un moment.
Con mi 33.
C'est la compagnie des auteurs que vous écoutez et nous parlons de Roberto Bolaño avec Alban Lefranc. Roberto Bolaño et en particulier de son gros livre 2666. Alors dans les versets sataniques, Alban Lefranc, Salman Rushdie, qui est d'ailleurs cité dans 2666, pour dire que c'est un auteur plutôt mauvais, mais néanmoins pertinent. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce passage-là. Salman Rushdie attribue à l'un de ses personnages le fantasme d'une tropicalisation de l'Europe et de l'implantation sur le vieux continent d'une culture de l'excès. Et là, on a vraiment l'impression qu'on est dans Bolaño et dans justement ce livre énorme, tropical, je ne sais pas si on pourrait employer ce mot-là,
oui, je pense, oui.
De Roberto Bolaño.
La question, ce serait si ce livre-là est tropical ou... Oui, c'est une grande accélération des affects, constamment. C'est une prolifération des récits. Je trouve qu'un motif ou une façon de saisir ce livre, enfin, ce qui illustre assez bien, c'est vraiment Les Mille et Une Nuits où Scheherazade doit constamment renouveler les récits pour repousser l'épée du bourreau, tout simplement. Et on a l'impression que c'est vraiment la course contre la montre qu'engage Bolaño ou qu'engagent les multiples narrateurs du livre. C'est constamment continuer à raconter coûte que coûte. C'est vraiment une espèce de foi inébranlable, une foi de charbonnier en la puissance du récit, presque contre le réel. Il s'agit, enfin, Heiner Müller a une formule magnifique qui disait que la littérature est là pour rendre impossible le réel. Et c'est dans cet enjeu-là que se place Bolaño, à mon sens.
Et puis,
c'est de bras de fer avec le réel, comme ça.
Et puis, c'est toujours cette quête, donc, de ce personnage d'Archimboldi, écrivain allemand, né en 1920, donc fictif, hein, considéré comme un miroir du XXe siècle. C'est l'intitulé d'ailleurs d'un colloque dans le roman, l'œuvre de Benno von Archimboldi comme miroir du XXe siècle.
Oui, là, il y a une ironie, évidemment, je crois, chez Bolaño, qui s'amuse aussi des discours universitaires, mais avec beaucoup de bienveillance, hein, aussi. Hein. Oui, miroir du XXe siècle, puisque toutes la violence la plus contemporaine, donc celle qui est exercée contre des femmes à Santa Teresa, enfin donc à Ciudad Juárez, est constamment présente, très très vite, dès le début du livre. Et puis l'extermination des Juifs d'Europe, la Seconde Guerre mondiale, et sont des espèces de bourrasques qui sont constamment présentes. C'est-à-dire, encore une fois, cette vitalité n'est pas une vitalité de consommateur sur son canapé. Oui.
Et donc cet Archimboldi, ce personnage, ce romancier, il fait évidemment penser à Arcimboldo, ce peintre italien du XVIe siècle, dont on connaît l'homme potager, donc qui combinait finalement les fruits et les légumes pour en faire une tête. Est-ce que il y a là aussi quelque chose qui ressemble à la démarche de Bolaño, cette façon de combiner les signes, de les dévoyer aussi?
Oui, certainement. Ce qui est très frappant dans son livre, c'est aussi le télescopage des écritures et des genres. Hein, on est dans le fantastique, on est dans le comique, on est dans le roman historique, on est dans l'histoire d'amour, on est dans le roman, dans la bouffonnerie sexuelle. Donc, il a ce qui pour moi pourrait rappeler Archimboldo, c'est effectivement la capacité à télescoper, à agglomérer. Comment dire, agglomérer des éléments extrêmement différents pour dessiner une nouvelle figure, une nouvelle combinaison. Oui.
Un nouvel extrait, cette fois de 2666, adapté par Julien Gosselin.
Hans Reiter ?
Qu'est-ce qu'il peut bien être en train de faire au Mexique ? Pourquoi un type de plus de 80 ans ferait-il un voyage dans un pays qu'il n'a jamais visité auparavant ?
Peut-être un intérêt soudain ou la nécessité d'observer sur le terrain les paysages d'un livre en cours ?
Ah, c'est improbable, il n'y aura a priori plus de livres d'Archimboldi.
Et peut-être qu'il est simplement allé au Mexique pour faire du tourisme, comme tant d'Allemands et d'Européens du troisième âge.
Non ! Ça tient pas debout ! C'est peut-être devenu un vieux Prussien misanthrope qui, a un beau matin, a ouvert les yeux et est devenu fou. Une sorte de démence sénile.
Ah, s'il était en train de fuir, s'il avait soudain trouvé une raison de fuir.
Et on devrait peut-être partir à sa recherche.
Oh non, moi je me vois pas revenant en Europe en tenant Archimboldi par la main.
Non mais on veut pas l'enlever, moi je voudrais juste le voir.
Moi je me contenterais de lui demander qui était la personne dont la peau avait servi à fabriquer le masque de cuir dans le roman.
Moi je me contenterais de regarder les photos que vous ferez de vous, de feu, que vous ferez de lui au Sonora.
Mais peut-être que tout ça est faux. Peut-être que comme certains le disent, il vit en Grèce. Peut-être qu'il est mort. Peut-être même que l'auteur que nous connaissons sous le nom d'Archimboldi est en réalité Madame Boubis.
Bah oui, Madame Boubis.
Je pars dès que possible au Mexique. Qui vient ?
Moi.
Pierrot ?
Moi, je peux pas. Mon médecin me l'interdit.
On t'appellera régulièrement. On tiendra au courant de l'avancée de nos recherches.
Lise.
Ok. Moi, je viens avec.
J'aurais pu les accompagner. Mais j'avais déjà entamé un voyage. un voyage qui ne s'effectuait pas autour du sépulcre.
Voilà cet extrait de 2666 par Julien Gosselin, dans lequel les critiques littéraires, donc ces personnages principaux de ce livre, si l'on peut parler de personnages principaux, puisque encore une fois on est dans le tropical et dans le baroque, les critiques décident donc de partir au Mexique sur les traces de leur héros Archimboldi. On pense d'habitude que les critiques littéraires et les universitaires sont des rats de bibliothèque, mais non, là on se rend compte qu'en réalité ce sont des aventuriers.
Oui, 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 certainement. Mais c'est, de toute façon, il y a aucun, il y a assez peu. Enfin, il y a un rapport très, très aérien, on va dire, à la vraisemblance hein, chez Bolaño. Je ne pense pas qu'il soit très vraisemblable, ces personnages, et c'est tant mieux. Et surtout, il faut imaginer à chaque fois que dans chaque récit ou dans chaque récit qui commence, une dizaine de nouveaux récits vont s'en chasser. Donc, ce sont plus des personnages cigognes, finalement. Et c'est tout le problème, à mon sens, de vouloir faire une adaptation scrupuleuse, un peu confite en dévotion de ce livre, parce que le livre la brise constamment, la rend constamment impossible. Donc oui, effectivement, ce sont c'est ça qui est assez frappant d'ailleurs hein, dans son univers, sans prétendre avoir un surplomb sur les multiples livres de Bolaño, mais il me semble qu'effectivement ces personnages, même les plus abjects, sont plutôt souvent assez courageux et assez prêts à voyager loin de leur confort. Oui.
Alors eux, en l'occurrence, partent à Santa Teresa, ville très dangereuse aux confins du Mexique, où 300 femmes au moins ont été retrouvées, mortes, violées, mutilées. Et cette ville, c'est évidemment Ciudad Juárez, une ville qui a connu, à partir de 1993, des disparitions par centaines de jeunes filles et de femmes. Et vous-même, vous êtes allé, en tout cas le collectif de Quark, à Ciudad Juárez.
Voilà, moi-même, j'y suis pas allé, mais une bonne partie du collectif y est allé, effectivement, pour aller travailler avec les gens là-bas, monter des pièces là-bas. Un des membres de ce collectif, Sébastien Lange, s'est même installé là-bas. Donc, le processus de travail a vraiment consisté, c'est presque la résistance de l'œuvre à notre désir de l'adapter. Le collectif a même en partie éclaté sur cette œuvre. Mais c'est très bien si on prend pas ces risques-là, à quoi bon faire du théâtre? Du coup, on a...
Vous referiez, du coup, une adaptation de Bolaño? Ou alors maintenant, pour vous, c'est terminé?
Non, une adaptation, jamais. Mais un travail à partir d'eux, oui, certainement. Certainement. Si l'occasion se présente. Mais il faut bien imaginer, du coup, que le travail a consisté en le collectif et moi-même, on a vraiment amassé une quantité incroyable de textes, de vidéos, d'interviews. Je pense qu'il y a des quasiment une centaine d'heures de vidéos, d'interviews, de pièces de théâtre montées là-bas, etc. Pour essayer d'en faire un spectacle d'une heure et demie qui, évidemment, a sa manière plus, en tout cas, différente de celle du livre et aussi très foisonnante et prétend certainement pas être un récit clos. Ce qui est très puissant dans cette œuvre de Bolaño, il y a un moment donné où il évoque ça. Amalfitano rencontre un pharmacien et c'est assez amusant. C'est un petit...
Donc Amalfitano étant un universitaire encore, voilà, mais voilà. Celui-là chilien, voilà. Et une partie
plutôt échouée.
Dédiée.
Voilà, un universitaire plutôt, on va dire, échoué, plutôt très inquiet et en train de devenir fou. Et peu importe le contexte, ça c'est typique de Bolaño, il veut placer cette idée-là, donc il la met dans la bouche d'un pharmacien, qui préfère la métamorphose au procès, qui préfère donc les exercices d'escrime aux œuvres qui charrient la mer de le sang, tout
donc
simplement.
Les petites œuvres par rapport aux grandes œuvres, enfin les œuvres plus faciles par rapport aux œuvres plus difficiles.
Les œuvres contrôlées, les œuvres qui sont des exercices de style, aux œuvres inachevées, aux œuvres torrentielles, aux œuvres qui échouent aussi. Et c'est le propre aussi de ce livre, 2666, d'être plein de trous, de chausse-trappes, d'être plein de d'échecs. Enfin, il faut. Moi, j'ai certainement pas. Aucun de nous dans le collectif avait un rapport de dévot à cette œuvre. Il y a des moments où elle m'exaspère, il y a des moments où je la trouve facile.
Qu'est-ce qui vous exaspère ?
Ce qui peut m'exaspérer parfois à la lecture. Enfin, c'est extrêmement prétentieux de dire ça, mais bon, peu importe. C'est peut-être justement, précisément, cette prolifération des récits. Il a vraiment. Parfois, j'ai l'impression qu'il est un peu piscopie. Si vous voulez.
C'est-à-dire comme dans la fameuse partie des crimes où pendant 300 pages
non,
on
pas
nous
celle-là.
Explique tous les crimes qui ont été commis les uns après les autres, donc il y en a des centaines et cette partie n'est faite que de cela.
Non, pour moi, celle-là a vraiment une absolue nécessité parce qu'elle affronte vraiment l'abîme. Enfin, il faut toujours se défier de ce pathos hein, dans l'expression. Mais c'est plus, si vous voulez, à plein de moments, dans les récits, il va vraiment nous expliquer la couleur de la table, la matière de l'objet, le rayon de soleil et le voisin qui observe la scène sans que ça n'ait aucune utilité pour le récit. Donc, il y a quelque chose de l'ordre du débordement, mais c'est sa manière. C'est ce qui peut m'exaspérer. Mais c'est comme chaque œuvre, à certains moments, après qu'on l'a aimé, nous exaspère. C'est sa manière propre.
La première fois que nous avons été réunis tous les quatre, c'est lors d'un congrès de littérature allemande qui se tenait à Brême en 1994. Et... Ce fut un désastre. Mauvais hôtel, mauvais repas et organisation au-dessous de tout.
Nous avons dîné dans une taverne située à proximité du fleuve.
L'établissement n'aurait pas pu être plus horrible, mais la soirée fut longue et agréable.
Nous avons parlé d'Archimboldi et de sa vie, dont on savait si peu de choses. On s'est tous mis à raconter des anecdotes et des ragots en recoupant pour la énième fois de vagues informations déjà connues.
Nous faisions des hypothèses. Comme on revient à un film aimé, sur le secret de la vie d'Archimboldi. Et enfin, tandis que nous marchions dans les rues mouillées et lumineuses, nous avons parlé de nous-mêmes.
Nous étions tous les quatre célibataires et cela nous semblait un signe favorable.
Nous vivions seuls.
Tous les quatre, on se voit essentiellement à notre travail.
À partir de ce jour et de cette nuit, il ne se passa pas une semaine sans que tous quatre, on se téléphone régulièrement.
Manuel. Voilà, nouvel extrait de l'adaptation de 2666 par Julien Gosselin, dans laquelle on entend se tisser au fur et à mesure des échanges entre les différents critiques, une relation amicale, mais aussi, Alban Lefranc, une relation amoureuse. Et dans ce roman, qui est tout de même un roman violent, on a très envie de faire l'amour et on fait beaucoup l'amour.
Oui, mais constamment chez Bolaño. Enfin, c'est. Mais pour revenir à ce que je disais, c'était peut-être pas très clair tout à l'heure. J'ai eu le sentiment que c'était dans cette adaptation, donc trop fidèle ou qui voudrait l'être en tout cas, un des points d'écart. Et c'est tant mieux. C'est bien qu'il y ait des écarts. C'est de problématiser ça. Alors que ce n'est jamais problématique chez Bolaño. C'est jamais un enjeu.
Alors c'est quoi ?
Ah, c'est de l'ordre de la vitalité, de l'affect pur, bon, à mon sens.
Alors c'est amusant parce que sur ce sujet-là, il y a des différences entre les critiques. Parce qu'un critique français, une critique anglaise, un critique espagnol, ils ne font pas l'amour de la même façon.
Oui, ça c'est très drôle, oui, effectivement. Ils n'ont pas la même bibliographie.
Vous dites bibliographie parce que
c'est ce que dit
Pelletier a beaucoup lu, c'est le français. Bon. Et donc il fait l'amour de manière beaucoup plus cérébrale que l'espagnol.
Oui, si je me souviens bien, oui, enfin plus longtemps et mieux finalement d'après Bolaño. Mais là aussi, on est dans le grotesque pur hein, parce qu'il s'agit de faire l'amour pendant 12 heures et l'autre seulement 6. Hein. Bon, on est dans une forme de bouffonnerie aussi, de grotesque, je pense.
J'ai la citation. Pelletier pouvait baiser pendant 6 heures et sans éjaculer grâce à sa bibliographie. Alors qu'Espinoza pouvait le faire en éjaculant 2 fois, 3 quelquefois et finissant à moitié mort grâce à son courage, grâce à sa force. Vous ne souhaitez pas réagir à.
Mais si, non, mais on entend très bien que le enjeu psychologique n'est pas extrêmement flagrant dans ce genre d'extrait, à mon sens.
Pour terminer sur la question de l'adaptation de Bolaño, est-ce que le mot d'anarchie vous semblerait un mot qui pourrait le qualifier ?
Le livre de Bolaño ? Ah oui, absolument. Oui, oui bien sûr. Oui. Enfin, une anarchie qui est constamment. Il y a un passage très beau, là, d'ailleurs, je vais le. Je ne vais pas prétendre le lire de mémoire, je l'avais apporté. Il y a un passage très beau où il dit, à propos des idées délirantes, des idées jeux d'Amalfitano, ces idées avaient quelque chose de satisfaisant, elles transformaient la douleur des autres en la mémoire d'un seul. C'est très étonnant, cette idée, finalement, cette espèce de fantasme qui est quasiment une pensée solipsiste aussi, hein, d'un récit qui prendrait en charge, donc d'un espèce de point de vue extérieur qui prendrait en charge la douleur du monde et qui du coup la transformait en quelque chose d'oubliable, j'imagine. Donc anarchie, oui, mais avec toujours ce désir, oui, d'y remettre un ordre, même très provisoire.
La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Merci beaucoup Alban Lefranc. Vous restez avec nous. Dans la seconde partie de cette émission, nous allons retrouver la romancière Edwige Jeanmar, auteure d'un livre intitulé « Blanès » est paru chez Gallimard et dont Bolaño figure au cœur de l'intrigue. Mais tout de suite, comme chaque jour, c'est le moment d'aller voir ce qui se passe du côté de la presse culturelle. Et tous les jeudis, nous sommes en compagnie de L'Obs avec aujourd'hui son plus éminent critique théâtral en la personne de Jacques Nerson. Bonjour Jacques.
Je suis le plus éminent parce que je suis le seul critique de théâtre.
Mais justement, comme ça, impossible de se faire des ennemis avec L'Obs en disant cela de cette manière. Avant de parler de ce qu'on va pouvoir lire peut-être soit cette semaine, soit la semaine d'après dans L'Obs, en l'occurrence les damnés à la Comédie Française, Jacques, je sais que vous êtes allé voir l'adaptation de 2666 par Julien Gosselin.
En effet, nous l'avons vu avec quelques-uns, un peu en avec quelques jours d'avance. Nous sommes allés à Valenciennes où nous avons été invités par Gosselin. Et donc, moi, je suis désolé, mais j'ai pas été absolument emballé par le spectacle. Et je crois pas avoir été rebuté.
Vous ne
par
soyez pas
ça.
Désolé, parce que Alban Lefranc, visiblement.
Oui, j'ai entendu qu'il avait également des restrictions. C'est pas la longueur qui m'a gêné en soi, parce que le temps est relatif au théâtre. On le sait, quand on est pris par un spectacle, on peut rester très longtemps. Et là, les 12 heures, entre actes compris, quand même, le spectacle dure un peu moins longtemps. Mais les 12 heures de représentation ne m'ont pas paru si tragique que ça, si dur à assumer. Ce qui me gêne, c'est que, pour ma part, j'ai l'impression que Gosselin n'a pas trouvé les lignes de force du roman. Et donc, effectivement, il fait une adaptation et relativement... Enfin, il essaie de rester très proche du roman et je crois qu'il a tort parce que le temps de la représentation n'est pas le même que celui de la lecture. On sait bien que quand on lit, on peut s'arrêter sur une page, s'attarder, on peut reprendre le livre quelques jours plus tard. C'est pas du tout le même. La représentation, c'est quelque chose de concentré, de tendu, et on peut pas raconter les choses de la même manière. Et là, je crois qu'il est resté trop romanesque dans le mauvais sens. Et du coup, j'ai eu l'impression, vous parliez tout à l'heure de roman tropical, mais moi j'ai eu l'impression effectivement d'être dans une forêt vierge, mais d'être complètement asphyxié à certains moments. Et je trouve que l'articulation, le lien se fait très mal entre les cinq chapitres. Et très souvent, même au bout, jusqu'à la fin, je me dis, mais tout ça pour en venir où? Alors bon, vous parlez du côté... piscopie de Bolaño par moment, je crois que vous avez raison.
Y compris dans les livres, oui.
Oui, mais je crois qu'il est au théâtre, justement, il est possible de l'éviter. Et bon, j'attends avec beaucoup de curiosité de voir votre spectacle, parce que je suis persuadé qu'une heure et demie suffit à dégager ce qu'il y a à dégager de ce livre énorme. Mais... Je crois que c'est quand même l'intérêt du théâtre, c'est qu'on raconte pas les choses de la même façon.
Bah de toute façon, on vous enverra un DVD, Jacques Nerson, parce que je crois que ça n'est plus à l'affiche, Barbecue.
Ça reviendra peut-être.
Ça reviendra peut-être.
Je sais pas où on est la production là pour le moment.
Bah, espérons qu'on aura l'occasion du coup de le revoir. Alors, les damnés à la Comédie Française, Jacques.
Alors, les damnés à la Comédie Française, c'est intéressant à plusieurs titres. La première chose qui est assez amusante, c'est que je crois que c'est la première fois qu'un film entre comme texte au répertoire de la Comédie Française.
Film de Visconti.
Voilà. Et alors, il va y avoir, d'ailleurs, cette saison, c'est assez curieux, il va y avoir un autre film qui va entrer au répertoire de la Comédie Française, c'est La Règle du Jeu. Alors, c'est assez drôle que le théâtre ait à ce point besoin d'aller chercher, se nourrir du côté du cinéma.
Ça vous gêne?
Non. Pourquoi? Non. Pas spécialement. Mais ça me gêne dans le cas des damnés. Et je vais vous expliquer pourquoi. C'est parce que, à mon avis, Visconti n'est pas un bon écrivain. C'est-à-dire que ce qui est tout à fait normal, il écrit un scénario et donc les mots ne sont ici qu'au service de l'image. Et ils sont relativement pauvres. Quand on se retrouve face au texte, on se dit c'est curieux, on dirait presque un épisode de Dallas. C'est-à-dire qu'on voit des gens qui se disputent pour le pouvoir. Bon, ben là, en l'occurrence, ce sont des aciéries. Dans Dallas, c'est pour le pétrole. C'est pas la même époque, pas dans la même société. Mais à part ça, c'est ça. Je vais te piquer ta place. Je vais te... Bon, c'est pas très passionnant. Il y a pas de... Le verbe n'est pas chargé de la moindre poésie. Enfin, je pense que quand c'est pas le cas au théâtre, le théâtre est quand même le lieu du verbe essentiellement. Je ne nie pas le pouvoir de l'image, mais bon. Alors, il y a une très belle mise en scène d'Ivo Van Hove, mais magnifique, sublime. Il faut, si on aime la mise en scène de théâtre, si on veut en faire, il faut absolument voir ce spectacle. Mais je ne suis pas emballé.
Eh bien, merci Jacques Nerson. Deux critiques pas emballées ni pour l'une ni pour l'autre. On vous fera revenir en espérant que vous aurez pris plus de plaisir. À très bientôt Jacques. Et d'ici là, évidemment, on vous retrouve dans les colonnes, non pas du Nouvel Observateur, mais bien de l'Obs. Et si on allait à Blanes ? C'était mon idée. Je l'avais lancée le samedi 10 mars vers 11h du matin, après mes deux cafés, consciente de ce que je disais et aussi du fait que je le disais pour lui faire plaisir, sans soupçonner une seconde que cette phrase innocente serait celle qui me ferait chuter tout au fond du gouffre où je suis. Bonjour Edwige Jeanmar.
Bonjour.
Je viens de lire la première phrase de votre roman Blanes, du nom de cette petite ville où a vécu Roberto Bolaño, à une heure environ de là où vous vivez en ce moment, c'est-à-dire Barcelone.
Oui.
Vous
oui,
avez
oui.
même pris l'avion pour venir nous voir aujourd'hui. Merci beaucoup pour cela.
Merci à vous.
Vous êtes barcelonaise, mais vous êtes née à Namur, la ville où Baudelaire a été frappé d'hémiplégie. C'était le 15 mars 1866, mais il n'est mort à Paris que l'année suivante. On peut donc dire qu'un peu comme dans votre roman, l'un des personnages meurt sans mourir, tout comme donc Baudelaire.
Oui, je ne pensais pas parler de Baudelaire, mais oui, effectivement.
Non, mais plutôt de l'idée qu'on peut mourir sans mourir, qui
oui,
est
au cœur
quand même de votre livre.
Au cœur de mon livre, il y a un cadavre qui n'en est pas un, ou en tout cas un cadavre qu'on cherche sans le trouver, et une enquête en fait pour comprendre s'il y a cadavre ou pas, et comprendre ce qui s'est passé pour expliquer une disparition absolument incompréhensible et inacceptable.
Donc il meurt sans mourir, il disparaît, mais son épouse Eva, la narratrice du roman, dit les choses ainsi. Il a fait un pas dans ma direction et il est mort.
Et puis on dit comment ça il est mort ? Ça c'est la question que lui pose un autre personnage du roman qu'elle rencontre beaucoup plus tard à Blanes, qui s'appelle Yvonne. Oui, en fait, c'est l'histoire d'une... Donc Eva, effectivement, au retour d'un petit dimanche un peu typique à Blanes, où elle est allée avec son compagnon se balader un petit peu, manger au restaurant, etc. Au retour à Barcelone, son compagnon disparaît, meurt, on ne sait pas trop. Voilà. Et donc, en fait, comme la raison de ce petit séjour, de cette petite excursion à Blanes, était Roberto Bolaño.
Oui, parce qu'on se demande, les auditeurs se demandent pourquoi on parle de ça.
Oui, voilà. Donc, en fait, le disparu, le cadavre qui n'en est pas, Samuel, est un écrivain et un absolument fan de Roberto Bolaño. Donc Eva, voyant qu'il est un petit peu dans le creux de la vague en termes d'écriture, etc., lui propose naïvement d'aller passer un dimanche à Blanes, en espérant que voilà, ça
pour
va
lui
un
faire
petit
plaisir.
Peu, pour lui faire plaisir et un petit peu lui donner une inspiration nouvelle. Et donc, comme au retour, il disparaît, Eva, ben, tout naturellement, ou en tout cas dans sa logique qui peut-être n'en est une que pour elle, décide de retourner à Blanes, de comprendre ce qui a bien pu se passer tout au cours de cette journée, et tout naturellement va désigner Roberto Bolaño comme le coupable de la disparition de Samuel.
Alors, quand il prononce cette phrase, quand plutôt vous écrivez cette phrase, il a fait un pas dans ma direction et il est mort, il faut préciser qu'il avait posé sur le comptoir de la cuisine, un livre de Roberto Bolaño, lequel ?
Ah, le livre.
Ça n'est pas dit, mais on voudrait savoir lequel.
C'est entre parenthèses.
Oui.
Donc c'est entre parenthèses, pourquoi ? Parce que dans entre parenthèses, donc est un recueil de textes journalistiques ou plus anodins, Il y a un petit texte très très court de 4-5 pages qui s'appelle Le discours de Blanes, qui est un discours en fait qu'il a fait en 1999. On lui a demandé en fait de prononcer le discours de la fête patronale de Blanes, donc devant la mairie, devant les gens cette toute petite ville. Et ce discours, moi, là je reviens à moi en tant qu'écrivain, je ne parle plus des personnages, m'a absolument fascinée.
Et pourtant, à la lecture, il n'est pas très fascinant.
Non, il n'a absolument aucun intérêt, si on le lit. Mais moi, j'ai trouvé ça absolument fabuleux, parce que c'est vraiment pas ce qu'on attend, évidemment, d'un discours de fête patronale, où on est censé un petit peu vanter les charmes de la ville.
C'était peut-être pas grand-chose à vanter, aussi.
Non, effectivement, pour avoir beaucoup expérimenté Blanes, il y avait peut-être il n'y avait pas grand-chose à vanter, mais ce qui est absolument fabuleux, c'est que il part complètement dans une vraiment dans un pas un délire, mais il part dans une digression strictement littéraire, où il explique que la toute première fois qu'il a rencontré le mot Blanes, c'était au Mexique en lisant un roman de Juan Marcé, qui est un écrivain barcelonais, qui s'appelle Teresa l'après-midi. Et le personnage de Teresa avait une maison de vacances à Blanes. Et donc, il explique que quand il est arrivé à Blanes la toute première fois, par hasard, il a décidé de trouver cette maison de Teresa, l'a énormément cherchée, l'a cherchée partout, a marché beaucoup. Finalement, comme marcher, ça donne soif et ça fatigue, il l'explique dans son discours. Il s'arrêtait dans des cafés, donc il s'est fait des amis et finalement il est resté à Blanes.
Donc c'est grâce à la littérature qu'il s'est fait des amis et qu'il a trouvé un lieu pour
Exactement.
Vivre 20 ans.
Et c'est ça qui est fabuleux dans ce discours. Évidemment, je pense que c'est un petit peu retravaillé. Mais ce qui est fabuleux, donc, c'est qu'il transforme Blanes directement en décor littéraire et il transforme un petit peu les gens qui assistent à la lecture de ce discours en personnages d'office. Ça devient, parce qu'il parle de la pharmacienne, il parle de la libraire. Donc ce discours parle de gens en fait qui existent vraiment et qui sont ses voisins.
Voilà ce que dit la narratrice dans votre livre. Ce discours, ça parlait en gros des années qui passaient comme des mouchoirs, des crevettes rouges qui étaient les meilleures de la Méditerranée, des types de Blanes qui se droguaient et étaient aujourd'hui morts, d'un Jordi, d'un Santi, d'une pharmacienne, d'une libraire, peut-être d'un boucher, et surtout d'une Teresa, un personnage de Juan Marcé dont je n'avais lu aucun roman, qui passait ses étés à Blanes et dont Roberto Bolaño racontait avoir longtemps cherché la maison en vain. Donc on cherche toujours quelque chose. Dans votre roman, on cherche la personne disparue, Samuel. Samuel lui-même cherchait Bolaño à Blanes. Et d'ailleurs, durant cette journée passée à Blanes, la narratrice et Samuel vont chercher cette maison.
Oui, oui, oui. Alors je voudrais raconter une petite anecdote à propos de cette maison qui est assez fraîche. Mais j'étais en contact avec Juan Marcé, donc l'auteur de Teresa l'après-midi, à propos de Blanes, qu'il a lu. Et il m'a envoyé une lettre en me disant « C'est drôle parce que Roberto Bolaño, que je connaissais bien, m'a régulièrement, est revenu à la charge régulièrement pour me demander où était la maison de Teresa. » Donc ma fascination pour cette quête impossible d'une maison qui est un décor évidemment fictif, parce que Juan Marcé affirme que la maison a été inventée, Bolaño ne le croyait pas. Donc je trouve ça absolument fascinant. Et cette obsession en fait qu'a Eva de chercher cette maison, c'est une recherche... Cette maison, en fait, était juste à la jonction du réel, hein, parce qu'elle est décrite de manière hyper réelle dans le roman de Marcé. Et pour Bolaño, elle doit exister absolument. Et la pure fiction et de la... En fait, c'est le pouvoir de la littérature qui fait que Bolaño continue à chercher cette maison, que Samuel la cherche, disparaît, et Eva prend le relais, en fait, de cette quête impossible.
Donc, c'est une géographie... urbaine, qui est en fait une géographie de l'âme, qui en réalité n'existe que dans l'âme de Bolaño.
Oui, oui, oui. Je pense que c'est une... effectivement, c'est de... Mais Blanes, pour moi, et dans le roman aussi, est un univers mental tout en étant une ville très réelle avec des détails hyper concrets qui sont les campings, les kebabs, les petits restos. Donc c'est une ville qui vit, qui sent la crème solaire, qui a de la musique, etc.
Donc camping où était aussi, où travaillait Roberto Bolaño, selon la légende.
Oui, oui. Non, il a travaillé à mais c'était pas à Blanes, mais il a été effectivement gardien de camping, comme le note aussi. Enfin, un personnage de Bolaño qui est utilisé donc par Javier Cercas dans Les Soldats de Salamine est basé évidemment sur une histoire absolument réelle qui est le poste de gardien de camping qu'il occupait. Mr. America, walk on by the minds that won't be reached. Mr. America, try to hide the emptiness that's you inside. But once you find that the way you lied and all the corny tricks you tried will not forestall the rising tide of hungry freaks, Daddy. Of the great society.
Hungry Freaks Daddy dans la compagnie des auteurs. Vous connaissez cette chanson, j'en suis sûr, Edwige Jeanmar. Et si vous ne la connaissez pas, c'est très mal, parce que vous savez que c'était une chanson qu'écoutait beaucoup Roberto Bolaño.
Désolée, je suis une fausse bolaniste.
Justement, c'est la question que je vais vous poser. Est-ce que vous êtes vous-même une bolaniste? Parce que votre narratrice, Eva, elle ne connaissait pas Bolaño, elle n'avait rien lu. C'était son ami qui adorait.
Oui.
Alors vous êtes une bolaniste? Vous, enfin, vous êtes plutôt du côté de Samuel ou plutôt du côté d'Eva?
Non, je suis... J'ai beaucoup lu Bolaño, en tout cas je n'ai pas tout lu, mais j'ai eu un coup de foudre terrible pour Bolaño à un moment donné, ça c'est clair.
Il y a longtemps?
Il n'y a pas si longtemps, je dirais il y a 5-6 ans, non plus, 6-7 ans. Ça a été vraiment... j'ai eu tellement de plaisir, c'est pour ça que je trouvais curieux de parler des auteurs du mal, etc. Moi, Bolaño, je le trouve hyper vitaminique, très drôle. Je pense qu'il y a
même,
un aspect...
Nocturne du Chili, c'est quand même le
mais
mal.
Oui, mais je parle plus.
La partie des crimes dans 2666, c'est quand même le mal aussi.
D'accord, mais il y a aussi tout un volet, ce que j'appelle plutôt ces romans balnéaires, qui se rapprochent sans doute plus qui partage plus d'éléments avec Blanes, enfin que j'ai avec lesquels j'ai plus joué un petit peu. Donc comme La Piste de Glace, Le Troisième Reich, qui sont des romans qui en fait ont pour décor ce qu'il voit de depuis sa fenêtre ou depuis son balcon, et ce que je trouve absolument fascinant. J'aime en fait l'aspect minuscule du lieu où il pose ce personnage et où il les déploie. Donc ça, c'était quelque chose que j'avais envie de faire. Et en fait, du coup, c'est pour cela que j'ai voulu squatter vraiment le Blanes de Bolaño pour y lâcher des personnages qui étaient du coup les miens et le mettre, le placer lui aussi comme personnage un peu maudit et un petit peu malmené aussi.
Il n'y aurait pas eu de Blanes, votre roman, sans Bolaño?
Ah non, bien sûr. Non, ça c'était impossible.
Parce que finalement, il est assez peu présent dans le livre.
Il est très peu présent, c'est un espèce de fantôme, un gourou, enfin une espèce de dieu qu'on vénère à Blanes et aux environs. Ce qui d'ailleurs est tout de même un petit peu le cas, l'aura qu'a Bolaño à Blanes, c'est clair, ou même à Barcelone ou à Girona, c'est le... énorme. C'est, je pense qu'il faut être là pour s'en rendre compte, mais il y a des fans de Bolaño dans les rues de Blanes qui errent comme des âmes en peine pour essayer de respirer l'air qu'il respirait. Et quand on passe dans la rue où il avait son studio, les gens qui lèvent la tête, qui se tordent le cou pour voir la petite fenêtre tout en haut, on sait tout de suite, c'est des bolanistes qui traînent par là. Et...
C'est une secte alors?
Je me suis amusée à transformer cette espèce de fascination pour Bolaño en secte. J'en ai fait une secte avec un gourou, avec tout ce qui va avec la secte.
Alors, le fil qui vous rattache finalement à Bolaño est assez mince, et y compris le fil qui rattache votre roman à Bolaño est également mince. Mais si Samuel meurt, c'est peut-être parce qu'il a lu ce discours de Blanes.
Oui, bah en fait, je pense, pour être tout à fait clair, Bolaño, donc elle est un peu la figure emblématique qui plane au-dessus du roman, mais ce n'est pas le thème du roman. Clairement, le thème du roman, c'est tout de même cette quête de sens, cette espèce d'enquête aussi que va mener Eva, qui est un personnage qui suite à la perte de son compagnon, se retrouve absolument sans aucun repère et dans un monde absolument vidé de son sens. Donc, elle se retrouve propulsée en plus dans un univers qu'est Blanes, où le réel, la fiction s'entremêlent, où il y a une porosité totale entre ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas. Donc pour quelqu'un qui est absolument paumé comme elle est, ce qui la rend à certains moments limite grotesque, elle se retrouve dans des situations absurdes, etc. Elle est ridicule aussi par moments. Elle va patauger en fait dans cet univers.
Elle est ridicule, elle reste toujours un peu drôle, parfois malgré elle.
Je la trouve drôle et très courageuse aussi de se débattre dans ce décor où plus rien n'est ni vrai ni faux. Et donc où elle va en fait se reconstruire petit à petit au contact notamment de bolanistes
qui vont la sauver d'une certaine façon.
Qui en fait vont la sauver, qui vont lui faire très très peur au départ. Elle voue une haine absolument absurde à Bolaño. Elle est sûre que Bolaño est le responsable de tout. Et elle creuse, elle va sur les sites de bolanistes. Elle essaie de comprendre qu'est-ce qui fait qu'on peut apprécier Bolaño, etc. Elle ne comprend pas, vu qu'elle ne lit que des Russes et des Polonais. Elle est fascinée par la littérature russe et polonaise et refuse de lire quoi que ce soit d'autre. Donc voilà, c'est une quête très difficile, mais elle va finir par s'en sortir. Enfin, elle s'en sort d'une certaine manière, oui.
La quête, c'est peut-être le mot le plus important chez vous, mais aussi chez Bolaño, puisqu'on cherche toujours des fantômes chez Bolaño, comme par exemple Cesarea Tinajero, la poétesse mythique des années 20, fondatrice du réel viscéralisme dans le roman Les Détectives Sauvages. On cherche aussi Archimboldi dans 2666. Donc c'est en référence à cela que vous avez voulu placer la notion de quête dans votre roman.
C'est quelque chose qui sans doute était quelque part dans ma tête, mais ce n'était pas, au départ, c'était pas conscient à ce point-là. C'est par la suite qu'on a fait le parallèle.
Donc
avec
c'est
la
par affinité, Césaria, tout simplement.
Oui. C'est par affinité, je pense, c'est peut-être pour avoir. Les Détectives Sauvages est vraiment un roman que j'ai lu et relu, que je trouve absolument fantastique, qui m'a fait hurler de rire, que je trouve absolument désespérant, à la fois très drôle et absolument désespérant. Et c'est ce que j'aimais, c'était ce mélange des deux. Et effectivement, la question du sens. Je pense que les personnages de Bolaño, beaucoup de personnages de Bolaño sont des personnages qui sont quand même à la quête d'une forme de sens, en tout cas qui se posent toujours la question de savoir, ils se retrouvent dans des situations, par exemple, sans avoir la moindre idée, sans plus se souvenir de pourquoi ils sont là et pourquoi ils sont assis, par exemple, sur une chaise et pourquoi ils regardent une fissure dans le mur. Ce sont ce genre de petits plans et de scènes que j'adore et qui sont très proches, je pense, du personnage d'Eva, qui est un personnage absolument désemparée. Et je ne sais pas s'il est bolagnesque pour ça, mais en tout cas, c'est un petit héritier de Bolaño, oui.
En tout cas, le roman qu'écrit Samuel Klein, l'écrivain disparu, le dernier roman s'appelle « L'éclipse ». Une dernière question pour vous, Edwige Jeanmar. Est-ce qu'aujourd'hui, vous en avez fini avec Bolaño? Ou est-ce qu'il est encore présent dans votre vie d'écrivain ou dans votre vie de tous les jours?
Oula, mais je pense qu'un écrivain reste toujours présent. Enfin, on les mange. Moi, j'ai les écrivains que...
Comme les crevettes à Blanès.
Voilà, on les mange. En plus, les crevettes de Blanès ont cette particularité de pouvoir être mangées avec la tête. Donc, j'ai mangé Bolaño avec la tête et je le garde, bien sûr.
Ah bah, ça nous donne vraiment envie d'y aller. Merci à vous, Edwige Jeanmar. Tout de suite, je vous propose de retrouver Jacques Bonafé qui lit cette semaine des poèmes de Sylvia Plath.
Bonjour. Quelle est cette assemblée qui s'avance vers moi sur le pont? Ce sont les gens du village. Sylvia Plath avait beau se soumettre au conformisme de son époque, nous dit Valérie Rouzeau, sa traductrice. Elle n'en était pas moins rebelle et farouche et son esprit critique ne manquait pas de finesse. Le pasteur, la sage-femme, le bedeau, le marchand d'abeilles. Je n'ai sur moi qu'une robe d'été sans manches, rien pour me protéger. Eux sont tous bien gantés, bien couverts. Mais pourquoi est-ce qu'on ne m'a rien dit? Ils sourient, relèvent des voiles fixés à des chapeaux anciens. Et moi je suis nu comme le cou d'un poulet. Est-ce que personne ne m'aime? Si, il y a la secrétaire des abeilles dans sa blouse blanche qui vient me boutonner les poignets, boutonner mon habit du cou jusqu'aux genoux. Maintenant je ressemble à un laiteron soyeux. Les abeilles ne me verront même pas. Elles ne sentiront pas ma peur. Elles ne sentiront pas ma peur. Bonté. La bonté me rend visite. Dame bonté, elle est trop aimable. Ses joyaux rouges et bleus étincellent dans la buée des fenêtres. Les miroirs se remplissent de sourires. Quoi d'aussi vrai que le cri d'un enfant? Le cri du lapin est peut-être plus sauvage, mais il n'a pas d'âme. Le sucre guérit de tout, puisque bonté le dit, le sucre est un fluide essentiel. Ces cristaux font de petits cataplasmes. Oh, la bonté de bonté qui ramasse gentiment les morceaux. Les papillons désespérés de mes soieries japonaises seront bien vite épinglés, bien vite anesthésiés. Et te voilà avec une tasse de thé, attention délicate, si le sang jaillit, c'est la poésie. Rien ne peut l'arrêter, et tu me tends deux enfants, tu me tends deux roses. Ariel est le nom du cheval de Sylvia Plath. Cheval blanc, Ariel, le nom du personnage de La Tempête de Shakespeare. Ariel. Un moment de stase dans l'obscurité, puis l'irréel écoulement bleu des rochers, des horizons. Lionne de Dieu. Nous ne faisons plus qu'un, pivot de talons, de genoux. Le sillon s'ouvre et va, frère de l'arc brun de cette nuque que je ne peux saisir. Yeux nègres, les murs jettent leurs obscurs hameçons gorgés de doux sang noir, leurs ombres. C'est autre chose qui m'entraîne fendre l'air, cuisse, chevelure jaillie de mes talons, lumineuse Godiva, je me dépouille, main morte, mortelle austérité. Je deviens l'écume des blés, un miroitement des vagues, le cri de l'enfant se fond dans le mur et je suis la flèche.
Ou du profil gracieux et anonyme qui tremble dans les soleils de Shakespeare.
C'était Jacques Bonafé qui a choisi toute cette semaine de nous lire des textes de Sylvia Plath. Merci à vous Alban Lefranc et Edwige Jeanmar d'être venus et de loin en ce qui vous concerne, Edwige Jeanmar, pour nous parler de l'influence de Roberto Bolaño sur votre travail. Votre roman Blanès, Edwige Jeanmar, est toujours disponible chez Gallimard. Quant à vous, Alban Lefranc, je signale votre ouvrage « L'amour, la gueule ouverte, hypothèse sur Maurice Pialat » paru chez Helium en mars 2015. Vous pouvez podcaster et écouter cette émission sur le site de France Culture, tout comme vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux. Et puis, pour aller plus loin dans la découverte des textes de Roberto Bolaño, je vous conseille de retrouver dimanche prochain la mise en onde par Benjamin Habitant de plusieurs de ses textes. C'est dans Théâtre et Compagnie et c'est sur France Culture à 21h. Cette émission était réalisée par Laurence Millet. À la console, il y avait Alexandre Dang. Et à la préparation, Didier Pinault, Corinne Amar, Anne-Vanessa Prévost et Eva Lesseau. Merci à eux. La semaine prochaine, retour en France, nous intéresserons à l'écrivaine de l'ère du soupçon et des tropismes, Nathalie Sarraute. Dans un instant, Nicolas Martin, les sciences sur France Culture. Oh.